RFI 8h30 à Paris, 7h30 en temps universel. Et un nouveau journal avec vous, Sébastien Duhamel.
Et à la une ce matin, la situation dans l'est de la RDC avec un calme précaire désormais à Goma, où la vie reprend doucement ses droits malgré la présence du groupe M23 soutenu par le Rwanda et toujours farouchement dénoncé par Kinshasa. La diplomatie, elle, se mobilise toujours de son côté. Vous l'entendrez, la SADC, la communauté d'Afrique australe, organise à son tour un sommet extraordinaire aujourd'hui. La fin de la présence militaire française au Tchad, avec une première cérémonie hier pour acter la rétrocession de la base d'Hadji Kossé. Ce matin, une seconde cérémonie est prévue par la présidence tchadienne. Mahamat Déby doit normalement s'exprimer. La guerre au Soudan également au sommaire. L'armée régulière affirme avoir repris le contrôle de la ville d'Oud Rawaba dans l'état du Kordofan Nord, alors qu'une bataille importante semble également se dessiner autour d'El Fasher, la capitale du Darfour Nord, encerclée depuis 9 mois. Et puis le sort de Clarisse et Aristide Sayo en Centrafrique, la sœur et le frère du chef rebelle Armel Sayo. Ils sont en détention depuis 2 semaines, sans garde à vue et sans même savoir ce qu'on leur reproche. Alors que l'ONU s'est dite hier soir très inquiète face à des informations crédibles sur une avancée du M23 vers Bukavu, au sud Kivu, et bien plus au nord, à Goma, le chef-lieu du nord Kivu, où le groupe qualifié de terroriste par Kinshasa a pris ses positions dans plusieurs quartiers avec le soutien du Rwanda, l'activité a repris doucement. Quelques commerces ont rouvert leurs portes. Le M23, lui, a tenu une conférence de presse dans un grand hôtel de la ville pour réaffirmer ses objectifs. Mais sur place, les stigmates des combats sont réels. Les hôpitaux font état de plus de 1000 blessés civils. Alexis Guilleux, beaucoup de blessures par balles et par des éclats d'obus.
Dans les couloirs de l'hôpital Il Africa, dans le centre-ville de Goma, des hommes et des femmes sont étendus sur des lits ou des matelas, même le sol. Nathalie Siro a été blessée mardi lors des combats.
Nous étions assis à 4 personnes. En train de voir comment se déroule la guerre. Mais d'un coup, il y a une bombe qui a éclaté chez le voisin. Et nous avons été atteints par les éclats, tous. Moi, ça m'a atteint au niveau du bras. Et ça a fracturé l'humérus. Le papa là qui était au niveau de l'abdomen est décédé hier, malheureusement. Mais nous avons survécu.
Espérance Nsimiré souffre encore depuis sa blessure lundi dans sa propre maison.
Massa, syndrome olympique.
On m'a tiré dessus chez moi, dans ma maison. Mon bras a été touché et c'est pour cela qu'on me soigne. Je me sens très mal. Dans mon corps, il y a encore une balle dans ma poitrine. On m'a dit que l'hôpital n'est pas en mesure d'enlever la balle.
Le personnel soignant n'a pas été épargné par le conflit à Goma, comme en témoigne ce médecin qui a souhaité rester anonyme.
Les agents ont été touchés de nos chauffeurs pendant qu'ils allaient secourir, ont été victimes des tirs croisés.
L'hôpital Il Africa accueille 560 blessés. La plupart ont reçu des balles ou des éclats d'obus. 25 personnes ont succombé à leurs blessures depuis le début de la semaine.
Et pendant ce temps, les efforts diplomatiques se poursuivent pour tenter de trouver une sortie de crise. Après l'EAC, la communauté d'Afrique de l'Est, c'est aujourd'hui la SADC, la communauté de développement d'Afrique australe, qui organise un sommet extraordinaire dans la capitale du Zimbabwe, Harare. La SADC qui compte parmi ses membres la RDC, justement, et qui a déployé une force dans l'Est congolais. Le président Tshisekedi a d'ailleurs été convié pour ce sommet aux côtés du Sud-Africain Cyril Ramaphosa et de l'Angolais João Lourenço. Mais pour l'heure, Claire Bargelès, difficile de dire qui sera réellement présent.
L'agenda provisoire ne laisse pas filtrer grand-chose, mais l'hôte zimbabwéen a confirmé que l'ordre du jour sera dévolu au débat autour de l'engagement de la communauté dans l'est de la RDC. Car les chefs d'État doivent décider quelle suite donner au déploiement de la SAMI DRC, pour l'instant prévu jusqu'à la fin de l'année. Depuis le début de l'offensive du M23 sur Goma vendredi, l'Afrique du Sud, aussi présente sur place dans le cadre de la MONUSCO, compte déjà 13 morts du côté de ses soldats, et le Malawi 3. La situation est très difficile pour les troupes de la SADC retranchées dans les bases de Goma et de Sake, bien que peu d'informations soient communiquées sur leur état. Kigali accuse ce déploiement de ne pas être une force de maintien de la paix et de travailler aux côtés de groupes génocidaires armés comme le FDLR. Le ministre sud-africain des Affaires étrangères a toutefois indiqué hier soir avoir pu s'entretenir avec son homologue rwandais et affirme que les deux pays sont engagés à faire avancer le dialogue dans l'optique d'un possible cessez-le-feu. La communauté d'Afrique de l'Est souhaite pour sa part organiser un sommet conjoint urgent avec la SADC d'ici les prochains jours. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
La diplomatie à l'œuvre par la voix du ministre français des Affaires étrangères également, en soutien au processus de Luanda et de Nairobi. Jean-Noël Barrot doit rencontrer normalement le président rwandais Paul Kagame ce matin à Kigali. Hier, il était déjà à Kinshasa où il s'est entretenu pendant près d'une heure avec le président Tshisekedi. Paris qui appelle au retrait du M23 et des troupes rwandaises, c'est ce que nous disait ce matin le porte-parole de la diplomatie française, Christophe Lemoine. Il était notre invité, vous pouvez retrouver son entretien sur Internet.
N'Djamena, 100.2 FM.
N'Djamena, où il est 8 heures passées de 35 minutes. Le Tchad, où se tiendra ce matin une cérémonie d'adieu sur la base d'Hadji Kossey. Cérémonie en présence du président Déby, qui doit normalement prendre la parole pour marquer le départ de l'armée française du Tchad. Car hier, dans cette même base, une première cérémonie militaire était organisée pour officialiser la rétrocession. Il n'y a donc plus de soldats français, il reste désormais une poignée d'officiels sur le départ. C'est donc une longue page qui se tourne, une présence militaire de plus d'un siècle, mais cette page s'est tournée pour le moins rapidement, Victor Moria.
Tout commence le 28 novembre dernier, lorsqu'à la surprise générale, le ministre des Affaires étrangères tchadien publie une déclaration rompant les accords de défense signés en 1976. Moins de deux semaines plus tard, les Mirage 2000, ces avions de combat, symboles du soutien militaire français au régime tchadien, décollent vers la France. Le message est clair, des deux côtés, on souhaite un désengagement rapide. Les 26 et 11 janvier suivants, les bases de Faya-Largeau au nord et d'Abéché à l'est du pays sont rendues. Ne reste alors que la plus grande base française du pays, celle d'Hadji Kossey de N'Djamena. Les convois militaires se multiplient par la route vers le port de Douala au Cameroun, mais aussi par les airs. Une fois le millier de soldats et les dizaines de milliers de tonnes de matériel partis, Hadji Kossey est rétrocédé le 30 janvier, les clés rendues au chef d'état-major général des armées tchadiennes. Victor Morian, N'Djamena, RFI.
Une guerre violente au Cameroun, vous l'avez peut-être entendu sur RFI. Après quelques deux ans d'un travail de mémoire effectué par 14 historiens français et camerounais, c'est la conclusion d'un rapport de 1000 pages qui établit clairement la responsabilité de Paris dans la répression des mouvements indépendantistes camerounais entre 1945 et 1971. Oui, il s'agissait à l'époque d'une véritable guerre de décolonisation, selon les auteurs. Un point de vue partagé en France par Thomas Deltombe, co-auteur lui en 2011 de l'ouvrage Cameroun, qui parlait déjà de ces événements comme d'une guerre.
La commission présidée par Karine Ramondi dit bien que la France a mené une guerre. Donc ça, c'est important pour nous, parce qu'effectivement, on avait avancé cette idée et elle est validée par 14 historiens et historiennes. Donc ça, c'est quand même une satisfaction. La question, elle n'est pas tant ce qu'il y a dans le rapport que l'existence même de ce rapport. C'est-à-dire que ce rapport amène à une nouvelle étape. C'est-à-dire que maintenant, on ne peut plus dire qu'on ne sait pas. Vous vous souvenez que François Fillon, quand il était Premier ministre en 2009, avait parlé de cette affaire en disant que c'était de la pure invention. Bon, bah maintenant, ce type de déclaration un peu stupide devient impossible. C'est-à-dire, voilà, on ne peut plus nier les faits. D'autant qu'en plus, tout ça a été étayé par des nouveaux documents, puisque la Commission a eu accès à des nouveaux documents pour lesquels on n'avait pas eu les dérogations. Donc, tout ce qu'on avait raconté, d'une certaine façon, expliqué, étayé et solidifié, en fait, par le rapport. Donc, c'est ça, en fait, l'apport principal de ce rapport.
La réaction de Thomas Deltombe, contacté par Florence Maurice. Une nouvelle avancée revendiquée sur le terrain par l'armée soudanaise. Les hommes du général Al-Burhan affirment avoir repris dans l'état du Kordofan Nord la ville d'Umrawaba qui était aux mains des forces de soutien rapide du général Hemeti depuis mai 2023. Le Soudan, où les regards restent également braqués vers El Fasher, la dernière capitale des cinq états du Darfour, toujours contrôlée par l'armée, mais encerclé depuis 9 mois et pilonné ces derniers jours encore par des frappes de drones et d'artillerie lourde. Ils ont provoqué de nouveaux déplacements de population, Ouda Ibrahim.
Chaque jour qui passe, on porte son lot de victimes civiles à Al-Fasher. Les bombardements de FSR visent les institutions civiles et les camps de réfugiés. 70 civils sont morts sur le coup la semaine dernière suite à l'attaque d'un drone contre l'hôpital saoudien, le seul encore ouvert dans la ville. Ce mercredi, les FSR ont visé à l'artillerie lourde le camp d'Abou Chouk près d'Al-Fasher, faisant 7 morts et 11 blessés selon un comité local. En même temps, des témoins affirment que des renforts des FSR venant de différentes régions du centre du Soudan, d'où ils se sont retirés face à l'avancée de l'armée, se rassemblent près d'Al-Fasher au sud-est de la ville. La mobilisation serait importante autour d'Al-Fasher qui se prépare à la bataille. L'expert soudanais actuellement au Caire, Othman Mirghani, estime qu'Al-Fasher est sur le point de devenir un tournant dans la guerre au Soudan, dont on peut dire que le compte à rebours a commencé. Le rassemblement de FSR autour de la ville s'inscrit selon lui dans le prolongement de la vaste campagne contre la ville menée depuis 9 mois pour la faire basculer sans succès aux mains des FSR.
Ouda Ibrahim. En Centrafrique, cela fait 2 semaines aujourd'hui que Clarisse et Aristide Sayo sont détenus à l'Office central de répression du banditisme. La sœur et le frère du chef rebelle Armel Sayo, qui a quant à lui été arrêté le même jour à l'aéroport de Douala et qui est toujours aux arrêts au Cameroun. Son frère et sa sœur avaient été conviés par le chef de la police à Bangui pour une visite de courtoisie selon leur famille et leurs avocats, mais ils ont été appréhendés à la sortie de ce bureau. Aucune garde à vue ni élément d'enquête à charge ne leur ont été notifiés jusque-là. Leurs avocats dénoncent donc une détention illégale et vont demander à nouveau leur remise en liberté ce vendredi après avoir pu s'entretenir avec Clarisse Sayo. Parmi ses avocats, Maître Bruno Gbigba.
Aujourd'hui, nous sommes allés la voir. L'officier de police judiciaire au charge de l'enquête nous a interdit. Il nous a interdit de la rencontrer. Mon confrère et moi, nous demandons à ce qu'on puisse leur notifier formellement le motif de leur arrestation. 2, leur laisser le temps de rentrer en contact en permanence avec leurs avocats pour les aider à préparer éventuellement leur défense. Et 3, qu'on laisse le temps à leurs parents de leur rendre visite aux heures prévues à cet effet.
Et en termes d'actes, est-ce que vous allez déposer une demande de remise en liberté?
J'avais déjà demandé cela. Ils ne savent pas pourquoi ils sont arrêtés, donc il faut leur laisser le temps de rentrer chez eux. Et quand ils auront réuni tous les éléments de preuve, ils pourront les rappeler pour leur poser des questions. Mais actuellement, à ma connaissance, je ne vois rien. Ils n'ont rien entre leurs mains.
Maître Bruno Gbigba, un mot rapide également sur ce correspondant de l'agence de presse Reuters, placé en garde à vue hier aux Comores, Abdou Moustoïfa, inquiété pour désinformation. Le syndicat national des journalistes comoriens réagit et s'inquiète. Un dossier qui ravive en tout cas le débat sur la liberté de la presse dans l'archipel. RFI, restez avec nous. Notre matinale continue avec Julien Coquel-Rohem.